des polars et des notes.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Évasion pour le dernier des polars et des notes de l'année, farci de tout plein de romans noirs sortis dernièrement, de musiques éclectiques, rissolées dans le jus d'intrigues savoureuses et de suspense frissonnogène. Ah ben oui, c'est les fêtes, elles sont là, il est temps de penser aux cadeaux, c'est la saison. Entre une fausse augmentation du SMIC et un tir de lacrymo, va falloir trouver le temps de faire vos emplettes et rien de mieux qu'un livre pour joindre l'utile à l'agréable, plaisir de la lecture et compréhension des arcanes de la société. C'est pas fait pour remonter le moral la littérature noire, mais autant être prévenu plutôt que d'espérer vainement un mieux qui n'arrivera pas, en restant assis à contempler les dégâts du lobbyisme, la privatisation du bien commun et autres babioles d'un nouveau monde qui ressemble à s'y méprendre à l'ancien. Allez, 5 minutes, on tombe le gilet jaune, une petite heure, un café ou un thé à portée de la main, c'est la pause des polars et des notes, avec des romans policiers, des thrillers, des romans noirs tout frais sortis en librairie, et un coin des éditeurs comme on les aime. Laura est aux manettes, tout va bien, c'est parti.
Des polars et des notes.
Transition écologique et économie de carburant oblige. Nous allons commencer par un polar dont l'action débute tout près des studios de Radio Évasion, puisque tout démarre à Brest, dans un matin plus tranquille, de Gabriel Desabert. Ça c'est un pseudo qui sent bon le beurre salé, qui est paru chez City Edition. Alors là, vous avez deux histoires en une, assez économique. Brest, avril 2016, Thomas, 17 ans, le fils de Valérie, disparaît. C'est son fils unique, il est atteint d'une maladie handicapante. Il n'a jamais posé de problème, il a besoin de soins constants, ce qui l'inquiète encore plus sa mère. Elle soupçonne qu'il est parti rejoindre sa grand-mère paternelle en Allemagne, sans doute sous l'influence de son père, membre d'un groupe d'extrême droite, parti vivre auprès de sa mère dans un village occupé par une communauté nazie. Deuxième histoire, Allemagne années 40, Frida, fille de paysan, rêve de devenir infirmière. Nazie convaincue, elle adhère aux jeunesses hitlériennes qui lui paient ses études et travaille dans un Lebensborn, ses fermes d'élevage d'enfants blonds. Et elle se rend vite compte, une fois mise enceinte par un SS, que son utérus intéresse plus le pouvoir en place que ses qualités humaines et ses qualités de soins. Et comme l'armée rouge arrive, le Reich s'écroule et ses supérieurs lui enlèvent son enfant. Et voilà, nous aujourd'hui, le commissaire Laurent Fournier, dans un roman plein de rebondissements, enquête, noue une intrigue plus ou moins amoureuse avec Valérie, et il découvre des secrets de famille, pas seulement liés à la grand-mère. C'est une intrigue complexe entre la Bretagne, l'Allemagne, l'Argentine, le passé et le présent. Et qui dit matin tranquille dit Sunday morning du Velvet, bien sûr, chanté par la très énigmatique Nico.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. So long ago. Watch out.
Reste en Bretagne et ce sera pour mon coup de gueule du mois, de l'année, que dis-je, de la décennie. Voilà Tipa que j'apprends en lisant La cage de l'Albatros de Pierre Poucheret, paru chez Palémon Éditions, qu'il y a eu une opération de police dans les studios que j'occupe actuellement, juste pour des polars et des notes. Alors maintenant, si personne ne m'a tenu au courant, comment voulez-vous qu'on fasse un boulot potable ? Une course-poursuite effrénée dans les couloirs, une fuite par les toits qui arrive dans l'école du fou, et rien, pas un coup de fil, pas un message. Bon, en attendant les explications, je résume un peu le bouquin tout de même, parce qu'on a le plaisir d'y retrouver le trio d'héroïnes brestoises déjà présent dans N, qui est paru lui aussi chez Palémon en début d'année, en mai je crois. Il y a Léane, la chef de la PJ brestoise, Elodie, médecin légiste, et Vanessa, psychiatre, qui n'hésite pas à coopérer afin de résoudre les crimes au beurre salé. À ces trois amis s'ajoute Norine, jeune capitaine de police fraîchement débarquée, dont le tonton, pas de chance, est un peu aidé à faire le grand saut du haut de la falaise de la baie des Trépassés. Ajoutez à cela un énorme trafic de stupéfiants partant du port de Brest vers Nice, un truand fou furieux et un indique pas franc du collier, et vous avez un passionnant polar plein d'embruns et de rebondissements, avec cerise sur le McDo, deux dénouements, celui de l'enquête proprement dite et un final en forme de cliffhanger annonçant en fanfare d'autres aventures de la triplette brestoise. Côté musique, on est servi et moi j'ai choisi Walk Away de Sisters of Mercy.
Summer when the clouds fill the sky.
Corps rouge dans le Vercors, c'est le joli titre de Jérôme Sublon qui vient de paraître aux éditions du Caïman. Alors l'affaire se passe à Sainte-Moucherolles-sur-Bourne. Ah, vous ne connaissez pas, moi non plus, c'est un village de montagne isolée, non loin de Villard-de-Lans, et un crime particulièrement atroce vient d'être commis dans une scierie, ce qui donne l'occasion à Aglaé Boulu d'entrer en scène. Elle est chargée de l'enquête par son patron de Grenoble. Celui-ci est bien content de se débarrasser d'elle quelque temps parce que sa subordonnée lui fait un peu d'ombre. Aglaé Boulu, on l'a déjà vu, on a pu suivre ses investigations en Corse dans les précédents bouquins de Sublon, Notes énérées 1 et 2, qui sont parus également aux éditions du Caïman. Là, ça commence par l'histoire d'Anselme Delmar, la victime, patron d'une entreprise, et qui a trouvé la mort de façon absolument ignoble. C'est un notable local, grand chasseur, buveur, mangeur, trousseur, grande gueule aussi. Mais nul ne voit vraiment qui pouvait lui en vouloir à ce point. Il a été assassiné un dimanche matin et il avait rendez-vous, mais finalement le rendez-vous aurait été annulé. On croise tout un tas de personnages tout à fait pittoresques. C'est une communauté très fermée dans les montagnes. Et Aglaé arrive comme un chien dans un jeu de quilles et c'est la foule de personnages va s'amuser à qui mieux à lui mentir, à la faire naviguer entre les histoires qui datent de la résistance, certaines trahisons et des rapacités financières. Moi, Corps rouge, ça me fait penser à Red et ça me semblait s'imposer Gone par Red.
Treasure lost.
Après avoir redressé la barre de la collection Série Noire des éditions Gallimard, mon invité du coin des éditeurs s'est lancé dans une nouvelle aventure avec la création de la collection Equinox aux éditions Les Arènes. Il s'agit bien évidemment d'Aurélien Masson. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Bon Aurélien, est-ce que Equinox n'aurait pas le nom, par hasard, n'aurait pas à voir avec un certain alignement raconté par Sébastien Reiser ?
Non.
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 Ah, j'étais sûr de mon coup pourtant.
Ah, bah non, je l'avais pensé avant. C'est un mot que j'aime depuis toujours. Et donc après, il y a eu un fabuleux hasard. C'est-à-dire quand Sébastien a fait cette trilogie qu'on a fait ensemble, quand il m'a dit le mot, j'ai adoré direct. Mais le terme équinoxe, c'est quelque chose qui me plaît depuis gamin, qui me renvoie, je sais pas, mes BD de pilote, à Drouillet, enfin tout un univers un peu pop des années 70. Ça sonne aussi un peu comme des vieilles boîtes de nuit, on va dire. Et surtout, c'est que j'aime bien le terme et ce qu'il signifie, tout simplement. C'est-à-dire ce mélange du blanc et du noir, où le jour et la nuit sont égales. Et voilà, j'avais toujours eu un peu ce titre en tête. Et quand j'ai eu l'occasion de créer une collection de rien, je me suis dit, ce nom claquerait bien. Et puis il ferait bien, comme un label, comme une maison de disques, enfin ça me plaisait.
Ouais, en plus il y a le X qui est aussi grand que le E à la fin, c'est vraiment l'équilibre.
Voilà.
Et la genèse de la collection alors ?
Bah, la genèse de la collection, comment ça s'est fait ? Bah, ça s'est fait que j'ai quitté la série noire, j'ai oublié un peu les dates, mais je sais que j'ai quitté la série noire au mois de mai, je crois que c'était mai 2017. Et puis j'ai lancé Equinox en mars 2018. Donc j'ai préparé tout ça pendant ces mois-là. J'avais les livres américains de Patrick Michael Finn et de Jedidia RS. Je les avais déjà dans le viseur. Mais je pouvais un peu rien en faire chez Gallimard parce que c'était des trop petits formats. Donc là j'en ai profité pour dire que dans cette collection on publierait des textes vraiment de toutes les tailles, des très très gros textes, des très petits textes. Et puis après, il y a eu certains auteurs de la série noire qui sont venus avec moi sur le bateau, d'autres qui sont restés. Et puis, j'ai continué à faire ce que je fais, c'est-à-dire à sillonner la France, rencontrer des libraires, faire des rencontres, rencontrer des auteurs, recevoir des manuscrits, et puis voilà.
C'est un petit peu comme le ce que tu disais, un mélange de blanc et de noir, c'est à peu près des textes qui sont entre la littérature et la littérature noire.
Ouais, mais moi c'est plus pour moi, à mon avis, un problème d'auteur et que je comprends très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est catégorisé littérature, on touche un plus grand public que de la littérature noire proprement dite. Nicolas Mathieu pourrait en parler si vous l'interviewez, ou Pierre Lemaître, ou Ben Acquista, ou comment il s'appelle, Pénac.
Ou mais plein de gens, ouais.
Mais pour moi, je fais du roman noir. Et je suis très fier de cette appellation. Et je trouve que l'acceptation du roman noir dans le champ littéraire général est de plus en plus forte en ce moment. Alors après, il y a les romans policiers, il y a les polars, mais le roman noir commence à se distinguer en tant que tel.
Quoi. Ah oui, ça c'est une évidence, ouais.
Donc voilà, j'ai pas besoin obligatoirement d'une sorte de reconnaissance blanche pour me dire « Ah, c'est de la qualité ». Mais c'est-à-dire que quand je parle du blanc et du noir, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les auteurs avec qui je bosse et tous les livres que je publie, il y a cette ambition de faire de la littérature. Mais j'allais dire, je l'ai toujours un peu eu. Il n'y a pas vraiment de changement. Moi, je suis un éditeur, j'ai un rapport au texte, j'ai un rapport aux auteurs. Et après, il y a un costume. Alors, il y avait le costume série noire qui était très prestigieux. Le costume Equinox qui est un peu plus serré. Enfin, c'est tout jeune. Il faut que je fasse mes preuves et que je creuse le sillon. Mais mon attitude est la même. C'est-à-dire, j'ai pas changé parce que tout d'un coup, je suis plus à la série noire. La série noire, c'était une collection, et c'est pour ça que c'était bien. C'est une collection matricielle dirigée par une personne. Et chaque personne qui la dirige, il injecte son imaginaire et sa vision qu'il a du genre.
Oh, tu l'as profondément remodelé quand même.
Ouais, mais comme Stéphanie Delestré va le remodeler à sa manière, comme Reyna l'avait remodelé par rapport à Soula, Soula avait un peu marché dans les traces de Duhamel. Mais Soula, Reynal, Masson, Delestré, ça n'a rien à voir. Et je pense que les livres n'auront rien à voir. et pareillement, pareillement Equinox. Enfin, je pense que ça sera assez drôle. Moi, je viens de la socio. Et je suis sûr qu'on pourrait faire une sociologie comme ça des collections d'édition, des collections de littérature, noire ou pas noire, en fonction un peu des éditeurs qui sont aux manettes, c'est-à-dire le Rivage de Guérif, le Fiction et compagnie de Denis Roche, le Sagittaire de Gérard Guégan, voilà, il y a toujours des identités.
Et la marque Aurélien Masson, alors c'est quoi ?
La marque Aurélien Masson...
Bah ouais, quand même.
La marque Aurélien Masson, c'est, je sais pas, disons que j'aime vraiment beaucoup le roman noir, en ce qu'il est, j'aime la littérature du dévoilement. J'aime une littérature engagée dans le réel, engagée pas politiquement, mais engagée dans le réel, c'est-à-dire vraiment les deux pieds dedans, qui vous parle un peu du monde qui vous entoure, de sa folie, de sa dureté. Moi, je viens de la sociologie, je viens de l'histoire, et je suis très sensible à l'idée que les livres sont comme une capsule temporelle, c'est-à-dire que si on prenait une caisse et qu'on mettait... tous les équinoxes de cette année qui vient, mais là je suis déjà en train de programmer pour 2021, donc ouais. Je vois très bien où je vais. On va dire si on mettait les trois années à venir et puis dans une caisse, qu'on faisait un grand trou dans un jardin, et que dans 100 ans une personne tombait sur cette caisse, je pense qu'en lisant ces livres, il se dirait « Ah, c'était un peu ça les années 2018, 2019, 2020 ». Et c'est ça qui m'importe. Alors après... comme je disais tout à l'heure, il y a une ambition littéraire affichée, c'est-à-dire que je veux que ces livres soient, pour reprendre Bachung, le grand Bachung, je voudrais que ces livres soient éternels. Donc on travaille effectivement à ce que ces livres soient les plus beaux possibles, ne soient pas trop datés dans le temps, aussi bien au niveau du style, de l'argot, des thèmes qu'on choisit.
Du graphique aussi, parce qu'ils sont tous noirs et blancs avec des couvertures...
Ouais, mais ça va changer, vous allez voir. Moi, j'aime bien que tout change. On avait changé les tailles de la série noire, les maquettes et tout ça. Je m'aperçois que le monde, parfois, du polar est un peu fétichiste et essaye toujours de figer la chose. Moi, je suis une sorte de virus qui mute et donc je me suis aperçu... j'avais aussi une attente de coups d'éclairage, de couleurs. Et donc vous allez voir que cette année, sur les 13 titres qu'on va sortir en 2019, il va y avoir 5 titres qui auront des jaquettes couleurs, mais qui seront des jaquettes couleurs qui seront tirées à partir du dessin noir et blanc qu'on retrouvera sur la couverture. Mais ce sera une jaquette qui va péter, vraiment, très, très graphique, très, très flashy.
Ah ben c'est bien ça.
Et voilà.
Ça, c'est bien parce que les couvertures sont souvent tristounes en France.
Oui, et puis faut rire, et puis faut écouter. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème, je ne suis pas enfermé dans ma tour d'ivoire. Et donc, moi, j'aimais beaucoup le noir et blanc parce que je voulais quelque chose qui marque. Et je pense que plus les années vont venir, vont s'accumuler comme ça, plus la collection, il y aura une vraie esthétique générale. Mais je voyais bien que pour certains, il y avait un côté « Ah, ça ne s'adresse pas à moi ». Alors j'étais là, mais si, ça s'adresse à vous, ça s'adresse à n'importe qui. Donc parfois, on fera comme ça des éclairages couleurs. Et puis si on s'apercevait que les gens adoraient ça, et ben on passera à la couleur. Enfin, tout ça, c'est pour moi les habits. Moi, je m'habille depuis que j'ai 17 ans, toujours de la même manière, avec un jean, des t-shirts, des vestes en jean, et puis des baskets ou des bottes. Et voilà, j'accorde peu d'importance à ça. Je m'aperçois qu'on est dans un monde quand même très très esthétique et donc j'écoute un peu
ça compte.
Un peu l'air du temps quoi. Et j'ai pas de problème à évoluer. C'est pas pour moi des histoires de trahison par rapport à un projet initial. C'est juste que moi mon but ultime, c'est vraiment que les livres trouvent leur public le plus large possible et que mes auteurs vendent des livres, touchent des droits d'auteur, puissent se consacrer à leur art en toute tranquillité, parce que souvent l'art ça fait pas vivre son homme.
Ah non.
Et moi voilà, j'aime que mes artistes soient le plus serein possible dans la limite du possible.
Et sur la répartition, auteurs français et étrangers, est-ce que c'est comme... est-ce que c'est l'équilibre comme l'équinoxe
Non, ça sera plus français.
Ouais.
C'est-à-dire, mais là encore une fois, c'est toujours ce que j'ai fait. Hein. La série noire, c'était comme ça.
Ah mais justement, tu changes, tu changes.
Ah ben bon. Non, mais moi je ne change pas.
Ce que d'accord.
Je change, moi je...
C'est l'habillage.
Ouais, Non, après il y a plein de choses qui changent, mais qui sont des trucs internes, qui n'intéressent pas les lecteurs. Mais ma vision du métier, elle ne change pas. Et moi je suis là pour permettre à des auteurs français de s'exprimer. On est dans un monde quand même extrêmement concurrentiel, compétitif, avec de plus en plus d'éditeurs qui font du noir. Et paradoxalement, à part, des petits éditeurs type La Manufacture, les gens sont parfois un peu frileux sur les auteurs français, alors que moi, en tout cas, signe des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Alors c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a fait à la série noire, ça a donné aussi envie à des gens de se lancer dans l'aventure française. Mais moi, c'est vraiment, ça n'a rien de marketing ou de commercial. C'est-à-dire que je pense que l'éditeur est quelqu'un qui, un peu comme une fée, a une baguette magique dans la main, qui est de légitimer socialement un auteur. Pour moi, un auteur est un auteur à partir du moment où il écrit un texte, qu'il soit lu ou pas lu. Mais vis-à-vis des autres, vis-à-vis des, je sais pas, de la femme ou du mari de cet auteur ou de cet auteureux, de la famille, des gens autour, quand il y a un contrat d'édition, ça devient tout de suite beaucoup plus réel. Et donc je pense que l'éditeur doit, lui aussi, comme l'auteur, prendre des risques à consacrer des heures et des heures à écrire des histoires qui peut-être n'intéresseront personne. L'éditeur doit de son côté aussi prendre des risques et donner un petit coup de baguette sur la tête de quelqu'un et lui dire tiens, toi, maintenant, tu seras un auteur, comme dit la société. Mais encore une fois, je le répète, pour moi, un auteur est un auteur dès qu'il ouvre son ordinateur, qu'il ouvre son document Word, et qui commence à aligner des mots. Mais voilà, une sorte de reconnaissance. Et donc,
sociale.
Equinox, ouais, global, quoi, général. Et donc, Equinox va continuer à faire, 60-70% de français, et puis faire des premiers romans, continuer à planter des graines, en se disant on verra, c'est-à-dire que peut-être certains vont poursuivre, peut-être certains vont percer, peut-être d'autres pas, mais voilà, ça fait partie du jeu, quoi.
Alors les nouveautés pour 2019, tiens, pendant qu'on te tient, là, il va y avoir des livres en janvier là.
Ouais, carrément.
Il y a Marie Vandemeer,
même en mars, même en avril et même en mai. En janvier, c'est-à-dire l'année prochaine, on sort 13 titres. Donc en janvier, on sort justement un roman français qui s'appelle Mauvais œil de Marie Vandemeer.
Ah oui.
Que j'avais rencontré.
Très corse.
Ouais, carrément corse. On ne peut plus corse.
Et corsé.
Et corsé, ouais, Corsica corsé. Et c'est un. Je dirais que c'est un roman noir qui tend vers la tragédie grecque. C'est-à-dire qui vous décrit une femme qui s'appelle Antonia, qui était. Des années plus tôt, la plus belle femme d'Ajaccio et qui vivait avec son mari, qui était propriétaire de boîtes de nuit, braqueur, enfin malfrat dans toute sa splendeur, avec la chemise ouverte, les poils et la chaîne en or. Il y a eu des fusillades, le mari a disparu, enfin on se doute qu'il est mort, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et elle est retournée dans l'arrière-pays auprès de son papa cariatre et handicapé, un ancien nationaliste des années 70. Et le début du livre s'ouvre, elle a deux enfants, qui sont deux ados, et ça s'ouvre par une scène de chasse, un des enfants meurt, stupidement, puis le grand-père meurt, et tout d'un coup, l'ancien associé du mari disparu débarque avec un pactole, et Antonia redescend à Ajaccio, décidée à reprendre sa place, et avec elle, son fils, qui s'appelle Ours Pierre, et qui va, on se demande ou pas, reprendre un peu le flambeau. Et donc c'est toutes ces interrogations, je dis en marrant que jamais la Corse aura autant ressemblé à la Grèce de Sophocle, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la malédiction intergénérationnelle, la marque.
Le deuil impossible.
Le deuil impossible, mais c'est aussi, plus que le deuil impossible, vraiment c'est la reproduction, quelle est la part de liberté, de libre arbitre dans les choix qu'on fait, est-ce qu'on est libre dans ce qu'on fait ou est-ce qu'on est mu par des choses qui vous dépassent et qui remontent loin derrière. Donc c'est un livre qui tient vraiment à cœur. On a beaucoup bossé avec Marie et puis ça me touche parce que quand on avait commencé à bosser, on a pris le temps. En général, je bosse, ça dépend de ce qu'il faut, mais s'ils le font, on peut bosser longtemps sur un texte, et ce fut le cas avec Marie. Et à l'époque, elle était à la série noire, quoi, et c'est elle qui a insisté pour vraiment me rejoindre chez Equinox. Et donc, moi, je suis un vieux toutou fidèle et loyal, et donc ça m'a beaucoup touché, cette attitude. Et c'est une meuf badass. C'est ça que j'aime bien, c'est que là, les auteurs filles de la série noire sont des filles qui déménagent et qui, à mon avis, grattent un peu plus loin que les mecs. Les mecs, il y a beaucoup de façades. Les filles, vont gratter ce que nous, parfois, les mecs, on cache.
Alors, forte parole pour terminer. En attendant donc le mauvais œil de Marie, moi je vous recommande, si vous voulez essayer Equinox, moi je vous recommande Requiem pour Miranda Sylvain Carmici, qui est un bouquin très étonnant, mais qui vous prend au trip.
800, donc effectivement, ça me ferait plaisir que certaines personnes soutiennent cet auteur, qui est pour moi un auteur essentiel. J'ai entendu 2-3 critiques, c'est-à-dire que le monde du polar est quand même parfois très très un peu bien pensant.
C'est un bouquin qui vous prend au trip et
là,
qui vous lâche
bouquin,
pas.
Voilà, c'est un bouquin blanc, c'est-à-dire c'est comme les bruits blancs, quoi. Ça vous projette dans un chaos, ça n'explique rien, ça n'essaye pas de comprendre, ça vous met dans une réalité, puis c'est à vous de vous débrouiller. Et c'est un livre très très perturbant, et là je suis en train de bosser sur son prochain texte, qui sera une sorte de rencontre entre l'univers esthétique de Carmici et un peu Sin City, c'est-à-dire vraiment des destinées de différents personnages qui se croisent. Alors là, ça sera pas dans des bars, mais ça sera dans un vieux cinéma porno délabré. Mais on va faire quelque chose de plus ample. Ça, c'est, je pense, son livre le plus... Requiem pour Miranda, c'est son livre le plus radical.
Eh ben merci beaucoup Aurélien.
Donc il faut
absolument lire les bouquins de la collection Equinox, Requiem pour Miranda, L'éternité n'est pas pour nous de Del Perdange, etc. Donc merci. Pour revenir, on va bien sûr se quitter en musique tous les deux pour revenir à cette histoire de roman noir. Ils sont en fait tristes et vrais. Et
oui.
Donc on va se quitter avec Metallica, Sad and True.
Et Sad and True. Superbe
riff. Au revoir, Aurélien.
Au revoir.
Les enfants de Lazare de Nicolas Zemmet, qui est paru chez Gigal Polar. Tout commence quand Pierre Sanac, journaliste reporter d'images à France Télévisions, croise par hasard à la laverie une jeune chanteuse un peu bizarre, un peu énigmatique, qui est justement sa spécialité, est chanteuse de laverie. Elle vient chanter pendant que les gens attendent leur linge. D'origine cambodgienne, Agathe a été adoptée, elle vit à Paris et ne se sépare jamais de sa guitare. Et elle semble errer entre plusieurs mondes, des mondes un petit peu ésotériques, mystiques. Bien sûr, Pierre en tombe immédiatement amoureux. Voilà, on retrouve Nicolas Zemmet après retour à Duncan's Creek, qui a été le prix Dora Suarez 2018. Ses héros, c'est toujours un petit peu l'enfance maltraitée, la mort, parce que le journaliste Pierre Sanac apprend en conférence de rédaction une nouvelle incroyable, qui est l'histoire d'un petit enfant au Cambodge, qui s'appelle Sokom, qui aurait vécu une expérience de mort imminente. Et Pierre ne peut s'empêcher de faire un lien avec une histoire horrible qui vient de lui arriver, c'est qu'il est tombé juste sur son amoureuse cambodgienne qui s'est suicidée. Donc le journaliste part pour le Cambodge et il va croiser des gens un petit peu inquiétants. Il parle du trafic d'enfants, du tourisme des orphelinats au Cambodge. Une dangereuse course contre la montre. Dans un monde un peu exotique et proche des expériences des NDA, comme ça s'appelle. Comme musique, on retrouve Un soir de pluie de Blues Trottoir. Tu tairas tous les secrets de Hervé Jourdain chez Fleuve Édition dans la collection Fleuve Noir. Alors ça, c'est un polar de flic. Ça raconte l'histoire du commandant Guillaume Desgranges qui est chargé d'une enquête parisienne. Une femme noyée, et pas par accident, dans la Seine, portant un curieux médaillon en forme de chouette. Un second corps, parallèlement, est retrouvé dans les Ardennes et sur son pull, l'ADN de l'épouse du commandant Desgranges, qui est disparue depuis des années. Alors ça, il veut absolument pas en entendre parler. Il a élevé tout seul son fils et il a tiré un trait sur la fugue de sa femme. Pour lui, c'est terminé. Ses subordonnés, par contre, la brigadière Zoé de Chaume et Lola Rivière ne l'entendent pas ainsi. Et sans l'en avertir, elles partent là-bas afin de remonter la piste ardennaise. Alors, c'est une histoire qui se passe entre Paris, la Belgique, les Ardennes françaises. Les deux brigadières mettent en péril leur carrière dans un milieu hostile. Les deux jeunes femmes vont se heurter à bien des phénomènes étranges et des secrets qui finissent par tuer. C'est un très bon polar, donc un polar de flic avec les procédures, avec tout un tas de détails qui sont intéressants et qui décrit des processus de manipulation mentale, les mécanismes d'adhésion dans les sectes et puis la crapulerie des gourous tout simplement. Et dedans, il y a Serge Reggiani, Ma solitude.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Non, non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, 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 je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, 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 je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, 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 je ne serai jamais seul avec ma solitude.
Nous sommes à Casablanca en 1955 pour 55 degrés de fièvre de Tito Topin, qui est paru à la Manufacture de Livres et qui nous raconte au départ l'histoire de Georges qui raccompagne une jeune femme chez elle après une fête un peu arrosée. Et il aimerait bien que les choses ne s'arrêtent pas là, mais celle-ci n'est pas tout à fait d'accord avec lui et tout d'un coup ça bascule un peu dans l'horreur ordinaire du viol, du tabassage, etc. Et en 1955, en cette année-là, le Maroc connaît les dernières heures du protectorat français. Et une blanche victime d'un blanc, ça ferait très mauvais effet dans le tableau. Et donc, le responsable du protectorat du Maroc décide que ce serait quand même mieux que ce soit des Arabes qui soient coupables. Et donne des ordres en ce sens aux flics qui, de toute façon, lui doivent leur carrière. Et donc, ils vont obéir et qu'ils vont bien trouver des Arabes pour tenir le lieu de coupable. Ce qui crée... Comme ça se répand dans la population, ce qui crée des manifestations d'Européens qui, quand même, sont là pour faire respecter l'ordre et se dire que les Arabes, quand même, on ne peut pas leur faire confiance puisqu'ils viennent jusque dans nos bras violer nos filles et nos compagnes. Et ça dégénère très, très vite dans cette bonne ville de Casablanca où on suit une bande de copains et on suit une buique qui aura toute une histoire. C'est une déambulation chaotique de quelques jours dans une ville au bord de l'explosion dans laquelle on croise un peu tous les types de personnages et des personnages de flics corrompus absolument fantastiques ou lâches, un pouvoir aux abois et le petit peuple de Casablanca en train de préparer à passer un grand coup d'éponge sur toutes les humiliations subies. Donc c'est 55 de fièvre de Tito Taupin et dedans il y a de la musique, il y a Etta James, At Last. Voilà, vous pouvez retourner sur vos ronds-points habituels avant de préparer les réveillons et ouvrir vos cadeaux, que j'espère plein de surprises littéraires, à l'année prochaine et les publications de janvier qui, je vous l'assure, promettent. Toute l'équipe de Dépolar et des Notes vous souhaite de très joyeuses fêtes. Bye bye.
Des polars et des notes.